les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Tourner dans Paris ou faire jouer Paris. Paris en tête de liste des comédiens, en quelque sorte. Mais comment faire taire Paris? Trop de bruit, trop de voitures, trop de cris, trop d'imprévus. Et comment éclairer Paris? Comme au quotidien, peut-être. Mais l'art n'est pas le quotidien. Et puis, le quotidien, c'est le jour, mais c'est aussi la nuit. Paris mis en scène, tout un art, ainsi que le prouvaient les Mardis du cinéma, diffusés pour la première fois sur France Culture le 27 septembre 1988.
Envoyez l'autobus. Davantage de circulation autour du métro. Envoyez la voiture blanche. La voiture rouge. Plus vite la voiture rouge. Sortez la voiture rouge, disparaissez. Attention, Walter. On resserre sur Alexandre. On avance sur Alexandre.
Coupé. On va la refaire en changeant d'objectif.
Oh, attention, moteur.
Dans le rôle de la ville, Paris. Au cinéma, Paris paysage, Paris figurante, Paris décor, Paris héroïne. Paris, les ciels, les ponts, la Seine, les escaliers, les ruelles, le canal ou les toits. Paris panoramique ou Paris travelling. Action.
La plupart des films, je dirais presque intéressants de Paris aujourd'hui, sont des films banlieusards, des films... Carmonde, des films Loubar, des films Beurre, des films... Bref, on revient, si vous voulez, à de nouveau une spécialisation de Paris, des petits quartiers de Paris, ou d'ethnies minuscules, mais en effet, de gens beaucoup plus marginalisés, qui sont carrément des zonards, etc. Bref, des gens qui sont tout un univers d'exclus, qui sera plutôt mis en évidence. Vous imaginez par exemple aujourd'hui quelqu'un pouvant faire comme Becker, Falbala par exemple, au milieu de la haute couture, c'est fini ça. Si on fait la couture aujourd'hui, on fera la fripe, on fera les Halles, on ne fera plus la rue de la paix, quoi. C'est tout, ça, c'est fini.
Paris, mise en scène. Simone Douek, Jean-Claude Loiseau. Gilles Nadeau, Paris apparaît au cinéma dans une quantité de films. Ce qu'on pourrait peut-être dire, c'est qu'il y a une époque peut-être privilégiée où Paris est décrit dans le cinéma. Bon, moi j'ai envie de parler de façon très large des années 30 aux années 60.
Bon, on peut dire qu'effectivement, c'est judicieux de prendre des années 30 parce qu'il y a un témoignage sonore qui est sur la bande des films. Mais Paris a été mise à contribution par les réalisateurs, en particulier des burlesques Gaumont, qui sortaient des studios pour filmer leur poursuite. C'est comme ça qu'on a des petits chefs-d'œuvre de mise en scène qui donnent un bon aperçu de la sociologie de l'époque. Au fond, c'est des témoignages... tout à fait extraordinaire, qu'il est difficile de trouver dans les plans même des frères Lumière, qui sont pourtant très descriptifs, et que, au fond, la sociologie, ça passe peut-être par l'histoire individuelle des gens, et même la vision qu'avaient, à travers une mise en scène, les gens de leur époque.
Et c'était un peu alors une sociologie malgré soi ?
Le burlesque, évidemment, ça donnait une vision de la société, des petits métiers de Paris, mais c'est par inadvertance. C'est-à-dire que chaque fois qu'un cinéaste est sorti des studios et a planté sa caméra dans la rue, il a enregistré des tas de choses dont il ne pouvait pas se rendre compte de l'importance que ça pourrait prendre plus tard, comme des signes, des choses qui nous parlent terriblement. Alors, Trenet chante sur les quais de Paris, on voit des badauds, et au fond, on se demande si c'est pas les badauds qui font la vérité du film plus que l'histoire qui bon, toujours une convention et par la suite du fait que elle va donner lieu à des recettes, ça va sombrer en cliché. Paris populaire de René Clair, de Carnet, mais aussi de Godard, c'est un Paris où on peut respirer. Vraiment, il y a du chant hein, devant la caméra. Derrière les personnages, il y a une profondeur. Les passants qui passent, les voitures qui passent, c'est des éléments de décor, c'est des éléments dynamiques, et c'est pas la pression dramatisée qu'on trouve aujourd'hui dans les films. Paris est devenu aujourd'hui, dans les films modernes, un fond de décor pour poursuite en voiture, pour scène dure. À la limite, il redevient humain que la nuit. C'est Simone Barbès ou La Vertu ou des films
extérieur
de ce genre.
Extérieur nuit aussi.
Oui, extérieur nuit. C'est à ce moment-là que Paris est reconquis et délivré de toutes ses pesanteurs.
De toute façon, moi, j'aime Paris, quelle que soit sa présentation. Je trouve que c'est un sujet superbe, énorme, quelquefois poétique, quelquefois dramatique, même souvent tragique.
Henri Alcan.
Et je pense que les cinéastes ont raison de situer une partie de leur action dans Paris. Mais l'éclairage de Paris, c'est autre chose. Il est évident que quand j'ai tourné, par exemple, il y a quelques années, un film dont la moitié se passait à Paris, la moitié en Chine, tourné sur la butte Montmartre en plein été...
C'était le cerf-volant du bout du monde.
Oui, de Roger Pigot. C'était un plaisir, je dirais, exceptionnel pour moi, parce qu'en même temps, ça touchait à des réminiscences de mon enfance, étant donné que je suis né à Montmartre et je me suis retrouvé donc 30 ans plus tard à Montmartre en train de filmer dans la lumière solaire.
Alors justement, comment était représenté Montmartre dans ce film ? Est-ce que le lieu jouait un rôle important ?
Énormément. C'était le Montmartre très bien sélectionné par Roger Pigot avec les rues chères au peintre Trillo. Avec les perspectives, avec les trottoirs et les ruisseaux pas toujours propres, avec les gosses qui traînent ou qui courent ou qui jouent. Moi, j'ai beaucoup aimé. On a été jusqu'à reconstituer un faux magasin d'antiquités sur la butte Montmartre, un magasin qui n'existait pas, mais qui était nécessaire pour les besoins du film, avec un vieux antiquaire chinois qui était venu spécialement de Pékin pour jouer ce rôle. C'était très beau, c'était tout près de l'avenue Junot, à l'époque où on voyait encore une toute petite perspective et les ailes du Moulin de la Galette.
Garçon !
Monsieur ? Merci, monsieur.
Hier soir, qui c'était ?
C'est pas encore celui-là qui va me payer un petit intérieur renaissance. Il m'a payé un boc et je suis rentrée me coucher.
Bonjour Henriette.
Bonjour les petites.
Bonjour Henriette, tu viens du marché ?
Qu'est-ce que t'as là-dedans ?
De la blanquette de veau. Mon ami a l'estomac délicat. Il mange que de la viande blanche.
Quand je pense qu'il y a 6 mois, elle trimballait encore les paniers avec
lui. Oh, il y en a qui s'en est coiffée.
Elle le mérite. Avant de se laisser bousculer, elle avait pris ses renseignements.
Prenons les deux grands, disait-on à l'époque, Renoir et René Clair.
Jean Douché.
À la même époque, c'est-à-dire 1930-33, l'époque de Sous les toits de Paris, de 14 juillet pour René Clair, l'époque de Boudu sauvé des eaux et de La Chienne pour Renoir. C'est vraiment le jour et la nuit. Chez René Clair, c'est véritablement... D'abord, c'est du décor. Ensuite, c'est... une idée de Paris, de la rue de Paris, qui veut dire que vraiment dans la rue de Paris, c'est le petit village, tout le monde s'aime bien, tout le monde est gentil, tout le monde se connaît, tout le monde connaît ses petits travers, tout le monde, on s'amuse aux petits ridicules du voisin, enfin c'est charmant, charmant, charmant. Chez Renoir, c'est pas ça du tout, chez Renoir, c'est la rue crue, les gens, quand on voit par exemple dans Boudu, et là, c'est pris exprès, volontairement loin, la caméra n'est pas visible de telle façon qu'on a un véritable document sur comment les gens circulaient à Paris à l'époque, avec les sons de l'époque, ce qui donne une impression fantastique de vérité. Et ce Paris-là, chez Renoir, n'est pas du tout le Paris de la petite gentillesse. Et quand dans la chienne, il fait quand même le quartier Montmartre, avec la rue de Montmartre, les chanteurs populaires, tout ça qui renvoie, mais volontairement d'ailleurs, à René Clair. Le traitement n'est pas du tout le même. Le traitement, c'est... On sait qu'en effet, c'était ça, Paris. Les gens n'étaient pas du tout gentils, tout le reste. Simplement, les gens étaient un peu cons, comme partout ailleurs. Et quand il y avait un chanteur de rue, on venait chanter avec lui, parce que c'était comme ça que ça se faisait. On venait un tout petit peu s'émouvoir, mais en même temps, la cruauté, la méchanceté et la bêtise étaient là tout aussi présentes. Ça ne bouge pas chez Renoir. Je veux dire que Renoir, le fond méchant de cet homme violemment généreux, permet de donner une véritable dimension, donc une vérité à ce qu'il représente, alors que d'emblée, la conception d'un univers gentil, parce que c'est Paris, parce que c'est la rue de Paris de René Clair, fausse complètement les rapports, et aujourd'hui, bon...
Ensemble, et ça valait beaucoup mieux. Ah, à la musique.
Albert Préjean.
On m'offrait un contrat, et tenez-vous bien, on m'invitait à fixer moi-même le montant de mes appointements. C'est peut-être extraordinaire, mais c'est comme ça. Mais ce n'est pas tout. Savez-vous avec qui la Teubis allait me faire tourner? Eh bien, avec René Clair. Et rien ne pouvait me faire plus plaisir. D'abord parce que René était mon ami, et aussi parce que, dirigé par lui, j'étais sûr de faire quelque chose de très bien. Il me connaissait, il savait ce qu'on pouvait me demander, et avec lui j'étais tranquille.
Oui, et cette confiance était tout à fait justifiée, puisqu'il allait vous donner, dans Sous les toits de Paris, un rôle taillé à votre exacte mesure.
Un rôle en or, un rôle que j'ai senti dès la première lecture.
Et dans lequel, il faut bien le dire, vous avez été inoubliable.
Si vous voulez dire par là qu'il a marqué dans ma carrière, c'est exact. Tenez, aujourd'hui encore, je rencontre des gens qui me parlent de Sous les toits de Paris et qui me disent mais que le film était vraiment très bien.
Et son principal interprète également, car vous étiez le personnage.
Écoutez, je n'avais pas eu de mal à m'identifier à lui, puisque c'était presque un personnage que j'avais joué dans la vie. Un chanteur des rues, ça ressemble beaucoup à un Camelot. Et Camelot, ben, je l'avais été à mes heures. Cela dit, qu'il ait pensé à moi en écrivant le rôle d'Albert... Parce que le personnage s'appelait Albert, oui, je le crois volontiers. Mais le curieux de l'affaire, c'est qu'il m'ait fait chanter.
Vous n'aviez guère chanté auparavant.
Un peu, enfin, comme tout le monde. Mais à ce moment-là, je ne pensais pas au tour de chant. Et je dois dire que j'ai chanté dans Sous les toits de Paris sans me prendre pour un chanteur pour autant.
Sous les toits de Paris, tu vois ma petite Nini, on s'aimera, c'est si bon d'être unis. C'est quand on a 20 ans que fleurit le printemps, qu'il faut s'aimer sans perdre un seul instant. Tant que tu m'aimes bien, je n'ai besoin de rien, près de ta maman, tu n'as pas tout le monde. C'est ainsi que cœur à cœur, on cueille comme une fleur, sous les toits de Paris, le bonheur.
René Clair.
Quand on est imprégné de quelque chose, à un certain moment, cela vous reste, et puis, plus ou moins consciemment, un jour cela ressort et ça vous donne une idée d'un film, d'une œuvre quelconque, n'est-ce pas ? En l'espèce, je me rappelle assez bien comment cela s'est passé. Je tournais à cette époque, c'était encore la période muette, et je tournais au studio Gaumont, au but de Chaumont. Le film s'est appelé Le fantôme du Moulin Rouge. Et un soir, je sortais du studio tout seul et je descendais la rue Botzaris. Et auprès de la station de métro Botzaris, il y avait un chanteur des rues entouré des gens, comme ça se faisait autrefois, et là cela a disparu depuis les haut-parleurs et autres plaisanteries. Et c'était très émouvant parce que ce type chantait, je ne me rappelle plus quelle chanson, et son compère vendait les exemplaires, et à peine les gens avaient-ils acheté un exemplaire, qu'ils accompagnaient le chanteur, chantaient avec lui. Et je suis resté là un bon moment, assez ému par le spectacle, l'ambiance. Et je me disais, mon Dieu, que j'aimerais faire ça, mais comment le faire? Comment le faire au cinéma sans le son, sans le chant qui donne toute la saveur de la chose, n'est-ce pas? Et puis j'ai oublié. Et quand, quelques années plus tard, le film parlant est arrivé, j'ai eu beaucoup de réticences d'ailleurs, parce que je craignais que cette innovation détruise une grande partie de ce que j'aimais dans le cinéma, n'est-ce pas? Mais quand j'étais dans la nécessité de faire un film parlant, parce qu'on ne pouvait plus faire que cela, et puis ça m'intéressait au total d'explorer quelque chose de nouveau, cette idée sans doute m'est revenue, et j'ai écrit l'histoire d'un chanteur des rues, ce qui, à l'époque, était déjà presque du passé. Je ne l'ai pas cité à une époque ancienne, n'est-ce pas? Mais en réalité, déjà, on en voyait moins, le chanteur des rues. C'était déjà presque anachronique.
Vous avez eu l'utilisation de Paris 1930-1940, qui va, en effet, être une double utilisation. Celle René Clair et celle Renoir. Celle René Clair, c'est le décor et une rue de Paris que va reprendre tout de suite après Marcel Carnet. Et la filiation est précise. Carnet reprend Merson qui travaille avec René Clair. Donc là, on voit bien. Puis ensuite, il prend Troner, qui était le collaborateur de Merson. Et là, c'est précis. Renoir, lui, filme en direct, filme en naturel, dans le décor réel. Et donc, c'est tout à fait différent. Et cette conception de Paris, à ce moment-là, il refuse le studio. Et donc, c'est un point de vue totalement réaliste. Après la guerre de 40-45, le cinéma français, qui s'était enfermé totalement dans les studios pendant l'occupation, de par la force des choses, au lieu de sortir, comme le fait le cinéma italien avec le néo-réalisme, au contraire, s'enferme encore un peu plus dans le studio. Si bien que les années 45-58, ce seront le triomphe du studio et du côté étouffant du studio et du côté conventionnel du studio. Tout le monde passera par le studio, sans exception, on ne peut pas y échapper. Même des gens comme Jacques Becker, qui ont été assistants de Jean Renoir, et qui donc essayent de faire du réalisme, feront du studio. Et Renoir, qui rentre d'Amérique, bon, bah, après tout, c'est l'époque, puisque c'est studio, il tourne studio. Et French Cancan sera studio, totalement. C'est-à-dire que, puisque vous voulez que je tourne en studio, à Paris 1900, après tout Paris 1900 c'est normal quand on est en studio, à ce moment-là j'accentue le studio et ça se verra. Je fais des décors studio, je fais une vision de Paris complètement en effet imaginaire et de toute façon je représente la belle époque telle qu'on veut voir la belle époque. En réalité moi je sais très bien que cette belle époque c'est une catastrophe où si on est pas riche on est là pour être bouffé par les autres et être vidé par les autres. Ce beau Paris de la belle époque c'était une époque de pur vampire, de vampirisme, et à la fin, quand on a bien usé, c'est comme Prudel, la mendiante, qu'on laisse abandonner. Et c'est pas grave, toute cette jeunesse du peuple, elle nous a donné du plaisir, elle-même a pris du plaisir, tout ça, ça s'est bien brassé dans un beau French Cancan, mais les riches restent riches, et les pauvres, maintenant restez pauvres. Donc c'est un point de vue, si vous voulez, sur Paris, où on joue la représentation mythique de Paris de la belle époque, en fait, pour la détruire.
Ça vous plaît, Cancan?
J'aime
Marchez, jolie madame.
Pas du tout, mon cher. Je m'amuse énormément.
Vous valsez? Tu valses avec un autre?
Mais quels sont ces petits points de détail qui faisaient qu'on reconnaissait Paris?
Quel exemple je peux vous donner? Pensons par exemple à French Cancan, dont j'ai fait le décor.
Max Douy.
French Cancan, c'est Montmartre. Pour faire croire très vite, sans sous-titres et sans bavardage inutile, pour faire croire où nous étions, c'est-à-dire dans le Montmartre de l'époque 1906, puisque le film se passe en principe en 1906, à la création du Moulin Rouge, eh bien, on mettait dans ce décor des petits métiers, des petits commerçants, on repavait la rue, on avait les fameux escaliers de la butte, qui ont donné lieu à une chanson, et puis derrière les escaliers de la butte, il y avait Montmartre, c'est-à-dire le Sacré-Cœur. Et les vieilles rues en escalier. C'est de cette façon qu'on peut très vite faire comprendre où nous sommes. Et si vous vous promenez dans Montmartre, je vous mets au défi de faire des prises de vue qui expliquent aux gens où nous sommes. Notre métier, le métier de décorateur, c'était de créer un Paris efficace et compréhensible par tout le monde et très vite. Dans le monde entier.
Et qu'est-ce qui fait que, justement, lorsqu'on se promène dans Montmartre, on ne puisse pas donner de prise de vue?
Vous avez rarement une échappée en dehors du grand escalier qui descend jusqu'aux abbesses. Vous n'avez pas la possibilité de montrer le Sacré-Cœur correctement et vite.
Un problème d'angle.
C'est un problème d'angle, c'est un problème d'emplacement. Et pour avoir... par exemple, la rue des Abbesses, qui est une rue de Montmartre, eh bien, si vous vous promenez dans la rue des Abbesses, vous avez rarement l'occasion de voir le Sacré-Cœur. Et maintenant, en tout cas, il est impossible de tourner dans ces rues-là, surtout des films d'époque.
C'est votre salade.
Oh. Appel est bon.
Est-ce que ça vous plairait d'être danseuse, mademoiselle?
Oui, on sait ce que ça veut dire.
Qu'est-ce que vous voulez à ma fille?
Elle m'intéresse beaucoup, chère madame.
Ma fille est une honnête fille, monsieur.
Je n'en doute pas. Combien gagne-t-elle chez vous?
Ma fille n'est pas à vendre.
Je veux lui donner un métier.
Voilà, déjà. Quel métier?
Le plus beau des métiers, chère madame. Le théâtre.
Ça ne me dit rien, puis d'ailleurs, je ne sais rien faire, alors.
Eh bien, on t'apprendra. Tu n'as pas ton pouce comme ça.
Vous en auriez combien?
3 francs pendant son apprentissage et 100 sous quand elle débutera.
100 sous, t'en as de la veine. 100 sous? Elle commence quand?
Tout de suite, si vous voulez.
Pour qu'elle finisse sa journée.
Eh ben, je viendrai la prendre ce soir.
Oui, tout ça, c'est très gentil, mais qu'est-ce qui me dit que c'est sérieux?
Voilà une avance, chère madame.
Minute papillon, j'ai mon mot à dire, moi aussi. D'abord, comment c'est que vous vous appelez, où c'est que vous me ferez danser?
Je m'appelle Danglars. J'ai eu l'hippodrome, le jardin de Paris, et maintenant j'ai le paravent chinois. Et demain, peut-être que... Là, c'est une autre histoire. Alors, je viens de prendre tout à l'heure. Au revoir.
Je vous rapporte cette blousette dont le plissé est une honte.
Et le plissé de vos fesses, madame, comment est-ce qu'il est?
À ce moment-là, donc, dans les décors, on triche un petit peu.
De toute façon, les décors sont trichés, de toute façon. Ne serait-ce que pour avoir des cadrages qui permettent de bien voir les comédiens et en fond, avoir l'expression du lieu où ils travaillent et où ils vivent. Mais de toute façon, on s'arrange pour que tout de suite, le spectateur sache où il est et pourquoi il est là.
Paris, quelle belle ville! Tiens, Zazie, regarde!
Le Panthéon.
Qu'est-ce qu'il faut pas entendre?
C'est peut-être pas le Panthéon.
Ah non, 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 et non, c'est pas le Panthéon.
Et qu'est-ce que ce serait alors, d'après toi?
J'en sais rien, mais c'est pas le Panthéon.
On va demander un passant.
Le passant, c'est tous des cons.
Ça, c'est bien vrai.
Ah, mais j'ai trouvé. Ton Panthéon, c'était la Madeleine.
Peut-être, mais maintenant, c'est du passé, n'en parlons plus. Tandis que ça, petite, regarde-moi si c'est chouette comme architecture. C'est les Invalides.
On te tombe sur la tête. C'est tout au plus la caserne Reuilly.
Dis donc, tonton, quand vous déconnez comme ça, vous le faites exprès ou c'est sans le vouloir?
C'est pour mieux te faire rire, mon enfant.
La vérité, c'est que tantôt on le fait exprès et tantôt pas.
Si c'est pour vous moquer de moi, je peux vous dire que vous n'êtes que deux vieux cons.
Alors, allons-y, on peut parler maintenant. Voilà, Hôtel du Nord, le décor. Le décor et la maquette. Fait au sud de Billancourt. Alors, s'il y a d'intéressant à savoir, c'est que il y a un... Je crois que c'est le maire du 10e arrondissement qui a voulu classer l'Hôtel du Nord, croyant qu'on avait tourné le film là, au Canal Saint-Martin, avec l'Hôtel du Nord. Et il a fallu quand même qu'on lui dise, vous savez, c'est pas très heureux votre truc, parce que... Oui, parce que je crois qu'on devait le démolir. On devait démolir cet hôtel pour faire des immeubles modernes. Il y a peu de temps, il y a 2 ans. Et il a fallu lui dire, écoutez, vous pouvez le casser, parce que de toute façon, c'est un décor de tonnerre. Vous voyez, c'est ça. Je lui ai expliqué.
Pourquoi qu'on part pas pour Toulon? Tu t'incrustes, ça finira par faire du vilain.
Et après?
Oh, t'as pas toujours été aussi fatalitaire.
Fataliste.
Si tu veux le résultat elle-même, pourquoi que tu l'as à la caille? On n'est pas heureux tous les deux?
Non.
T'en es sûr?
Oui.
T'aimes pas notre vie?
Tu l'aimes, toi, notre vie?
Faut bien, je m'y suis habituée. Coquard mis à part, t'es plutôt bon mec. Par terre, on se dispute, mais au lit, on s'explique. Et sur l'oreiller, on se comprend. Alors?
Alors rien, j'en ai assez. Tu saisis, je m'asphyxie. Tu saisis, je m'asphyxie.
À Toulon, il y a de l'air puisqu'il y a la mer. Tu respireras mieux.
Partout où on ira, ça sentira le pourri.
Allons à l'étranger, aux colonies.
Avec quoi?
Cette idée.
Alors ça sera partout pareil. J'ai besoin de changer l'atmosphère. Et moi, l'atmosphère, c'est quoi?
C'est la première fois qu'on me traite d'atmosphère. Si je suis une atmosphère, t'es un drôle de bled. Oh là là, des types qui sont du milieu sans en être et qui crânent à cause de ce qu'ils ont été, on devrait les vider. Atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Puisque c'est ça, vas-y tout seul à la Varenne. Bonne pêche et bonne atmosphère.
Autant vous avez des décors sur Paris dont on se souvient entre 30 et 40, et en particulier les décors de René Clair et les décors de Tronnerre, à partir des années 50, vous n'avez plus aucun décor de studio sur Paris dont vous vous souvenez en tant que décor. En revanche, par exemple, si on prend Max Duy qui a travaillé à French Cancan, il est vrai que le décor, moi, je le trouve sublime. Mais c'est un décor très... ce n'est plus un décor valorisant sur Paris, c'est un décor déjà critique. Alors c'est autre chose. Le dernier décor qui reste comme décor de Paris, qui est dans la mémoire populaire cinéphilique, c'est Les Portes de la Nuit. C'est donc 1946, c'est Tronnerre, Carnet, le dernier film de l'équipe Tronnerre, Carnet, Prévert. Là, en effet, Les Portes de la Nuit, c'est une transfiguration de l'idée de Paris par le décor. Quand Carnet impose la reconstitution en studio de Barbès, ça a été le grand scandale à l'époque. Les producteurs d'abord et la presse ensuite. Carnet, mégalomane, devient vraiment le cinéma français, sort de la guerre, il est pauvre. Comment ose-t-on dépenser, gaspiller autant d'argent pour reconstituer un décor alors qu'on peut très bien utiliser le décor réel? Bon. La vérité était qu'en effet, quand on voit le film est raté pour d'autres raisons, mais il n'est surtout pas raté pour son décor. Au contraire, c'est le décor qui fait encore la qualité du film, ou l'intérêt du film, avec évidemment la lumière qui accompagne le décor, puisque c'était pour ces raisons-là de décor, d'abord de problèmes d'optique, donc tout le problème de la photographie du décor qui imposait la construction du décor.
Quand se referment sur la ville les portes de la nuit,
quand le décor est dressé pour un drame, l'asphalte luisant de pluie a d'inquiétants reflets. L'amour, le courage et la peur vont se croiser dans l'ombre.
Marcel Carnet.
Il y a une petite tendresse pour ce que j'ai tenté, c'est-à-dire l'évocation d'un quartier de Paris la nuit, durant l'hiver qui a suivi la libération de Paris. Et je trouve ça, autant je vous accorde que la partie romanesque est moins réussie, ça j'ai un petit faible pour ça, parce que je trouve que c'est vraiment, j'ai réussi à évoquer ce qu'a été vraiment ce moment et c'est tout de même, je crois, une sorte de document par l'atmosphère et par les personnages, et ça, je crois que ça a tout de même une certaine importance dans l'œuvre d'un homme.
Le décor de Barbès, d'emblée, c'est déjà métro suspendu, d'emblée, imposait une idée de désespoir, de solitude, bref, représenter à lui seul ce que voulait dire le film.
Oh ! Qu'est-ce qu'il y a encore ?
Rien, mais c'est plus lourd que je ne pensais. Je crois qu'il va me falloir 2000 francs de plus.
C'est sérieux ?
Comment si c'est sérieux ?
Rien du tout, vous m'entendez ? Rien du tout !
J'ai 2000 francs, nom de Dieu, Jean-Bier, 2000 francs !
Rien du tout ! Je lui casse la gueule !
Jean-Bier, je veux 2000 francs, Jean-Bier, 45 rue Polymot !
Oui, oui, on le sait, plus un franc, plus un sou !
Mais laissez-moi descendre ! Jean-Bier ! Jean-Bier ! Jean-Bier ! Jean-Bier ! Jean-Bier !
Moi, j'ai eu la chance de travailler avec des grands professionnels et il n'était pas question de tourner dans Paris. On tournait comme il fallait, c'est-à-dire on interprétait, on faisait ce qu'il fallait pour que le tournage soit d'abord facile, rapide, de qualité et qu'il serve le script, ce qui est écrit compte beaucoup. Alors, j'ai eu cette chance de travailler avec des réalisateurs qui ne se contentaient pas de la médiocrité du tournage dans les rues de Paris. Car il y a longtemps qu'on ne peut plus tourner proprement dans les rues de Paris.
Alors, on va parler de la traversée de Paris. C'est important. Paris, là, c'est un peu le personnage du film.
Ah ben, bien sûr.
Et c'est un film que vous avez tourné en studio.
Oui, entièrement en studio, excepté la sortie du métro boulevard de l'Hôpital, et puis une petite partie de la rue Poliveau de jour. Étant entendu que la nuit, j'ai reconstitué la rue Poliveau en trucage avec le métro aérien derrière, en trichant un peu, et la fin du film, bien sûr, a été faite à la gare de Lyon, puisque nos deux protagonistes, Bourville, porteur de valise, et Gabin, l'artiste chevronné à la portière, reconnaît tout à coup son copain de la traversée de Paris. Ça a été tourné effectivement à la gare de Lyon.
Vous avez des photos là ?
J'ai des photos de ça.
On va les regarder, si ça vous ennuie pas.
Voyons, gare d'Austerlitz, si on prend le quai Saint-Bernard sur la gauche, le jardin des plantes, la halle au vin, et puis on traversera et on coupera tout droit par le Marais. Le Marais, ça c'est par chez moi. Allez, hop, on y va.
Voilà, pour la traversée de Paris, voilà comment ce film a été préparé.
Donc d'abord des dessins.
Des dessins avec des plans.
Qu'est-ce que c'est ?
Des lieux précis.
Tout a été fait au studio de Joinville. En fait, sur trois plateaux,
à côté du jardin des plantes,
et à toute vitesse, parce qu'il y avait des possibilités de changement de décor du fait que c'était des silhouettes peintes en grisaille. Que la traversée du pont Sully, vous vous souvenez de la traversée de Paris ? Gabin et Bourville, avec leurs valises, traversent le pont Sully, c'est-à-dire qui partent de la naissance du boulevard Saint-Germain, là où il y a le bistrot. Vous vous souvenez de ce bistrot où ils s'insultent et ils traitent le patron de salope pauvre. De là jusqu'à la fin du pont, c'est-à-dire au petit square qui est à Sully-Morland, là, qui est à la naissance du boulevard Henri IV, et il s'assoit, mais il traverse le pont. Et quand vous voyez le film, vous avez vraiment l'impression qu'il traverse le pont, et qui est interrompu par une partie de l'île Saint-Louis. Bien. Alors, le tout représente 350 mètres. Et on a fait ça dans un studio qui faisait 39 mètres sur 19. Avec un aménagement, car cette séquence a été tournée dans l'ordre.
Qu'est-ce que attendez pour foutre le corps avec nos valises? Hein? Allez, riflez-moi ça, sentez-moi ça, ça sent bon. Vous qui mangez que du boulin à la sure et buvez de l'eau du robinet. Vous avez à bouffer pour 3 semaines là-dedans. Eh ben allez-y, quoi! Vous savez bien qu'on ira pas se plaindre! Eh ben, qu'est-ce que vous attendez? Hein? Alors allez-y!
Regardez, tiens, ils bougent même plus. Puis après ça, ils iront aboyer contre le marché noir. Salaud pauvre!
On amenait à un moment un kiosque d'arrêt d'autobus qui n'existe plus. Tous les réverbères étaient, comme pendant l'occupation, masqués par des toiles noires avec des cônes de lumière que nous faisions très facilement. Il y avait une toile de fond, il y avait des silhouettes, et on changeait les silhouettes quand on passait de l'autre côté, et on tournait vraiment dans tous les sens. Eh bien, ce petit trucage, car ça n'est qu'un trucage, nécessitait, pour nous, la possibilité de mettre toutes les lampes sur réostat, afin d'accentuer la perspective. Les réverbères qui étaient en premier plan étaient assez forts, le cône lumineux assez fort, et tout au loin, si j'avais les plans, je vous le montrerais, parce que c'est des plans qui sont comme la table, et tout était expliqué avec les possibilités de lumière, les grosseurs de points lumineux, les grosseurs des cônes, etc.
Ah, sale gueule, il va nous faire repérer.
Allez, marche bien droit, pense à autre chose et laisse-moi faire. Ja, jung, ich bin der liebe Gott.
Hein?
Und ich hör die Erde. Ich hab's ja immer dir gesagt, dass ich was recht doch werde. Und nun hörst du ich alle Tage, die sollen dich entzünden.
Et voici notre héros, Jean-Marc. Chaque matin, à 9h25, il gravit les escaliers de la bouche de métro de l'avenue de Wagram, quasi diamétralement opposés à son lieu de travail. Pour s'y rendre, il a le choix entre 2 itinéraires. Celui de droite est légèrement plus court.
C'est une ville qui est un peu maternelle, qui est complice de tout ce qui s'y passe. Qui n'a absolument pas le côté inquiétant c'est difficile en fait de faire une comédie style série noire dans Paris, parce que Paris c'est trop bonne fille en fond. C'est une ville où les individus ont le droit de vivre. C'est une ville où au fond le personnage du film trouve toute son aisance. On peut draguer dans Paris, dans ce Paris-là. On peut se rencontrer, comme dans le film « La maman et la putain », on voit Léo draguer une fille sur la terrasse. C'est un moment, il faut une disponibilité, il faut que la ville elle soit complètement complice d'une chose pareille.
Je viens lire ici l'après-midi. J'ai l'intention de faire ça très régulièrement, comme un travail. Je ne peux pas lire chez moi. Bernanos disait: je ne peux pas me passer très longtemps du visage et de la voix humaine. J'écris dans les cafés. Moi, j'en fais un peu moins. Je vieillis. Il disait aussi qu'il le ferait davantage si les puissantes républiques ne taxaient impitoyablement les alcools. Il faut que je m'en aille. J'ai un rendez-vous. Qu'est-ce que tu fais plus tard?
Je vais rentrer chez moi. Passe après ton rendez-vous, sinon ce soir.
Comme dans L'amour à 20 ans, donc de Truffaut, où là tout se passe aussi de fenêtre à fenêtre et on a un panorama sur Paris.
Oui, c'était la séquence du début du film de Truffaut. Donner un aperçu sur une scène clé des 400 coups, bon, c'est toujours la place Clichy, où d'ailleurs Jean Douchet embrasse la maman, pour la petite histoire, la maman du héros de Truffaut, Léo, plus jeune, qu'on va retrouver beaucoup plus tard.
Et Antoine Doinel.
Voilà, c'est ça exactement. Effectivement, cette scène où un gosse peut surprendre sa mère dans les bras d'un inconnu, c'est presque un symbole de tout ce qui peut se passer dans une ville. Ça n'a pas le côté inquiétant et dramatique, c'est traité comme une chose possible au fond, et peut-être pas acceptable vraiment, mais qui n'est pas dramatique.
Why I fell, magnifique, what I seek, élégance, what I want, quelque chose, from head to toes, wonderful, marvelous, that she should care for me.
C'est vrai que c'est drôle de considérer que Wim Wenders ou... Bon, n'importe qui vient tourner à Paris, qu'il soit étranger, un autre regard, il retrouve le Paris que nous, on a fini de ne voir plus. Et ça, c'est assez étrange. Yotar Yoselani, lui, a tourné dans la rue de Seine, dans les rues où il y a encore les petits commerces, les marchands de quatre saisons. Enfin, ça, tout le monde sait que c'est une survivance qui va bientôt disparaître. Heureusement que les immigrés sont venus et qu'il y a, dans certains coins, des épiceries qui sont ouvertes jusqu'à 10 heures, mais sinon on n'aurait vraiment que des façades de supermarchés.
Et puis c'est aussi un Paris mythique, par exemple, dans les films, dans Ninotchka ou dans les comédies américaines des années 30.
Oui, mais ça c'est le Paris mythique, c'est le Paris qui a de l'esprit. Le dialogue de Lubitsch, ça c'est effectivement le mettre très en valeur dans Ninotchka. On retrouve le même esprit dans les meilleurs moments d'Une femme est une femme de Godard, lorsque Belmondo s'engueule dans la rue avec un type qui lui réclame du fric, ou lorsque Anna Karina, tout d'un coup, fait de la philosophie sans le savoir, en se demandant où se retrouve, si un adjectif qui précède un nom, ou un nom qui précède un adjectif, au fond, ça ne fait pas changer de sens la phrase qu'on est en train de dire.
Vous n'avez pas 52 000 francs à l'hôtel Bikini ?
Moi ?
Le 9 juillet. Vous n'êtes pas parti sans payer la note ?
Attendez, je vais vous dire. Tout ce que je fais, je le note sur un carnet. Octobre, septembre, juillet. Attendez. 20 juillet. Voilà, 9 juillet. Vous faites erreur, regardez. 10 heures, téléphoner à Popol pour une belote. Midi, déjeuner au snack.
Demandez François, Paris Presse, Le Monde.
11h30.
Demandez Le Figaro littéraire.
Parti sans payer de l'hôtel Bikini.
Demandez Marie-Claire.
Alors, vous allez me payer ?
Non, jamais.
Quiconque ?
Pauvre type.
Salopard.
Emmerdeur.
Enfoiré.
Juif errant, fasciste.
Bon, on reprend sur Une femme est une femme et l'esprit, la philosophie.
D'accord.
Oui, d'ailleurs, lorsque Godard tourne Anna Karina dans Une femme est une femme, Anna Karina, philosophe sans le savoir. Cette putain de bagnole.
Moteur.
Anna Karina dans Une femme est une femme, philosophe sans le savoir. Simplement en remarquant qu'en changeant la place d'un adjectif dans une phrase, la phrase change de sens. Un événement heureux et un heureux événement, ça n'a pas le même sens. Paris fait de l'esprit, avec Lubitsch, les dialogues de Ninotchka le mettent complètement en valeur. Il y a cette fameuse séquence où Ninotchka cherche la tour Eiffel et William Powell lui en profite pour essayer de l'aborder. Ça, c'est vraiment le Paris qui est un Paris consensuel sur lequel tous les cinéastes sont d'accord pour avoir un point de vue commun. Et c'est ce qui fait la cohérence, au fond, du cinéma sur Paris.
Can I be of any assistance to you?
You might hold this for me.
I'd love to.
Correct me if I'm wrong. We are facing north, aren't we?
Facing north? Well, now, I'd hate to commit myself without my compass. Pardon me, are you an explorer?
No, I'm looking for the Eiffel Tower.
Good heavens, is that thing lost again? Oh, are you interested in a view?
I'm interested in the Eiffel Tower from a technical standpoint.
Eiffel Tower. Your finger, please.
Why do you need my finger?
It's bad manners to point with your own. There, the Eiffel Tower.
Dans le film de Luciano Hemmer, Paris est toujours Paris, et qui a été tourné en 1950, donc qui a été tourné par un grand metteur en scène italien qui est quelque peu oublié maintenant, c'était particulièrement intéressant parce que c'était la vision d'un étranger de bon goût. Luciano Hemmer était un artiste. Et son propos était de montrer Paris comme si c'était un Paris vu par des étrangers, puisque le film était tout un groupe d'Italiens en promenade dans Paris. Donc il fallait filmer ce groupe.
Et c'était une découverte de Paris, en fait.
Une découverte de Paris telle que des étrangers peuvent ressentir Paris. Alors c'était très, très intéressant pour moi, parce que c'était le Paris, surtout le Paris la nuit, y compris des lieux que je connaissais bien, mais que je n'avais jamais filmés, tels que la cour du Louvre, tels que la place Pigalle, avec tous ces lumières clignotantes, attirantes, séduisantes et criardes, qui sont les lumières des boîtes de nuit. Alors on tournait donc à l'extérieur sur la place Pigalle, ça posait des problèmes techniques très difficile, très compliqué, que je n'avais jamais résolu jusque-là.
Lesquels, par exemple ?
Eh bien, éclairer la place Pigalle avec le minimum d'encombrement, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait jusqu'à cette époque. Et ça, ça entrait bien dans le style voulu de Luciano Hemmer du néo-réalisme italien. Il avait admis, par exemple, que tous ses visiteurs visiteraient le Louvre à l'américaine. Et visiter le Louvre à l'américaine, c'était assez curieux. C'était exactement, et ça ressortait du film avec un humour un peu épais, on voyait le groupe des étrangers entrer par une porte, puis il y avait un grand panoramique avec la caméra, et on les voyait ressortir par l'autre porte, 50 mètres plus loin, et ils avaient soi-disant visité le Louvre.
Pardon, mademoiselle, je ne vous ai pas fait de mal.
Non, vous m'avez fait peur. Si je vous avais pas vu, je pensais à autre chose. Au revoir, monsieur.
Je ne peux pas vous laisser partir comme ça, de vous conduire.
Non, je vous remercie. Je ne vais pas loin. J'ai besoin d'être seule.
Oh, si j'ai besoin d'être seule ce matin, mais je n'y arrive pas.
Il ne tient qu'à vous.
Je sais, mais j'en ai plus envie. Que drôle de quartier. La première fois, je viens ici.
Où habitez-vous ?
À Auteuil.
Un appartement ?
Non, une vieille maison avec un jardin. C'est calme.
Paris vous part. Paris, nouvelle vague. On quitte les studios. Les rues, les maisons, les chantiers, les garages, les ponts, les places. La vie, les personnages. Jean Douchet.
Ce film qui est de 1964, en fait, est la fin même, c'est le film qui clôt la nouvelle vague. Car S'il y a encore des rapports de connivence vraiment entre Truffaut, Godard, Chabrol, Romère, Rivette, jusqu'en années 64-65, on peut dire qu'à partir de ces années, de cette année-là, quasiment de cette année-là, chacun va prendre son propre chemin et l'espèce de connivence et de complicité est arrêtée. Et Paris vu Paris, on peut dire le dernier film de qui marque cette connivence. À un point tel que, en effet, le film a une unité de ton entre tous les sketchs qui est rarissime dans un film à sketch. Et il est tout à fait logique aussi que ce film, donc de Nouvelle Vague, parle de Paris, puisque le principe de base de la Nouvelle Vague était, comme c'était contre tout ce qui se faisait avant, et en particulier le cinéma de studio, donc le cinéma de qualité français, il y avait un besoin de vérité pour les jeunes comme ça qui voulaient faire du cinéma, que seul le retour à la rue et donc le retour au décor naturel pouvait apporter. Alors évidemment, c'était possible parce que des découvertes technologiques s'étaient introduites dans le cinéma. D'abord, la pellicule ultra-sensible, donc qui permettait de tourner la nuit avec les lumières naturelles, ce qu'avait déjà fait Louis Malle avec Les Amants. Vous aviez le son, justement, avec le Dagrat de plus en plus facile, donc permettant de réduire les équipes, de faire de toutes petites équipes. Vous aviez la possibilité de travailler avec le minimum d'éclairage. Vous aviez un instrument qui venait d'être trouvé, qui était un instrument optique, qui était le zoom, que déjà Rossellini, tout ça, commençait à travailler, et qui permettait de supprimer les travelling, etc. Et puis Godard, justement, sait qu'après tout, un travelling, c'est deux roues qui roulent. C'est pas la peine d'avoir des rails compliqués, 50 personnes pour faire actionner. Non, une simple poussette d'enfant, on met l'opérateur dedans, et l'opérateur filme. Ça fait un très bon travelling. Et en même temps, comme ça, on peut tourner directement sur les Champs-Élysées. Personne ne fait même attention à vous parce que vous tournez avec trois personnes. Et vous avez un naturel et une vérité des lieux et de la vie. Donc vous saisissez la vie telle qu'elle est et non pas telle que la reconstitution d'une vie qui est devenue complètement artificielle et qui était le propre du cinéma, ce que nous appelions de qualité, donc le mauvais cinéma.
Sur le boulevard Saint-Germain, seule blessure infligée par Haussmann, le café de Flore où, hier soir, sur cette terrasse noire de monde, une jeune étudiante américaine, assise à cette table, remarque son voisin et, après beaucoup d'hésitation, lui tend sa cigarette pour obtenir du feu. Une heure plus tard, Catherine et Jean se lèvent, montent dans une Bentley grise, se frayent un difficile passage à travers le flot bruyant des noctambules qui submerge cette heure tardive la rue Saint-Benoît et ses alentours.
Jean-Paul Sartre.
Longe le square de la rue de l'Abbaye.
Guillaume Apollinaire par Picasso.
Alors Paris, c'est vraiment le personnage dans ce film, et traité donc à la manière Nouvelle Vague.
Alors justement, si dans Paris vu Paris, on a pris Paris, enfin Barbet Schroeder a voulu prendre Paris, c'était pour des raisons d'abord, parce que Paris, en plus, c'est de nouveau les raisons économiques, c'est là où on vit tous, donc ça coûte pas cher, on n'a pas à prendre en charge les gens pour la nuit, on n'a pas à prendre en charge les gens pour le repas, pour le repas de midi encore un tout petit peu, mais le repas du soir, pas question. Bon, tout le monde rentre à la maison. Ça a l'air idiot, mais c'est fondamental. Bon, ensuite, Paris, parce que justement, c'était un autre point de vue. Alors, il y a une autre histoire encore dans cette histoire que je viens de citer. C'était qu'il y avait quand même un courant anti-cinéma de qualité de fiction à l'époque, c'est-à-dire dans les années 50, 60, et qui était le courant documentaire. Mais ce courant documentaire, curieusement, en fait, reprenait tous les travers du cinéma de qualité. C'est-à-dire des photos très léchées, des éclairages absolument parfaits, etc. Bref, quand on fait un documentaire et que vous avez des images, c'est intéressant de regarder les documentaires de cette époque-là aujourd'hui, des images qui sont quasiment des tableaux à la Rembrandt, on se dit, bon, d'accord, c'est un documentaire un tout petit peu revu et corrigé. Alors, dans ce documentaire, il y avait toute la tendance, René, Alain René, Agnès Varda, Chris Marker et beaucoup d'autres. Et dans ce courant documentaire, parce que là aussi c'était quasi obligatoire, était devenu la tarte à la crème, Paris, la Seine, les petits quartiers de Paris, les petits métiers de Paris, etc. Bref, la petite maison de Paris, enfin bref, tout ce qui est le pain béni de ce type de cinéma. Et ça nous agaçait tout autant. On avait marre de voir un documentaire sur Paris, les documentaires sur Paris qui, en fait, compte, ne représentaient pas la vie de Paris. Alors, quand on a fait Paris vu par, cette idée, c'était, on prend chacun un quartier. C'est vrai que tout le côté René Clair n'est pas faux quand même, que, en tout cas, à l'époque, il y avait encore un Paris village et que chaque quartier, et même que chaque endroit était, avait sa vie spécifique. Donc, nous avions comme impératif à essayer de restituer l'esprit du quartier à travers une histoire. Et puis, de filmer la vie du quartier. Et je crois que de ce point de vue, Paris vu par résiste après 25 ans et reste une sorte de documentaire intéressant sur ce qu'était Paris en 1964.
Passé ces solennités, la place de l'Étoile n'est plus que le point de rencontre de 12 grandes avenues. Une espèce de no man's land ignoré de la population active. Celle-ci, pressée et dédaigneuse des prestiges du lieu, n'en connaît que le pourtour. Dernière précision, depuis 1964, s'est ouvert, sur la face ouest, le chantier du métro régional, nouveau facteur de trouble pour la circulation, tant automobile que pédestre.
Naturellement, j'étais très, plus qu'intéressé par le mouvement de la nouvelle vague, mais je dois dire que c'est un mouvement qui, pour moi, a été assez pénible, puisque je me suis trouvé un peu rejeté du cinéma à cette époque-là, étant donné que j'aime la lumière réinventée, j'aime la lumière recomposée, j'aime les images dont les cadrages correspondent intimement non seulement au sujet, mais à des mouvements d'une grande perfection. Et la nouvelle vague a essayé de nous démontrer que, en effet, on peut faire un cinéma différent et que ce cinéma différent ne tient pas compte de la lumière telle que celle que je concevais moi-même. Alors, c'est une lumière différente, c'est une lumière généralement captée, séance tenante, avec sa beauté propre, mais dans laquelle on ne sent pas la maîtrise du cinéaste. Il place son sujet dans une lumière existante. Il ne recompose pas son sujet en fonction d'une lumière réinventée. Alors ça, c'est une grande différence.
Vous êtes fâché que j'ai parti sans dire au revoir?
Non, mais j'étais furieux parce que j'étais triste. C'est agréable pas de s'endormir, mais de se réveiller à côté d'une fille.
Vous allez rester à Paris?
Oui, faut que je voie un type qui me doit de l'argent. Après, il faut que je te voie toi.
Non, il ne faut pas.
Pourquoi?
Il y a beaucoup de filles à Paris plus jolies que moi.
Non, c'est drôle. J'ai couché avec deux filles depuis qu'on s'est vu. Eh bien, ça gazait absolument pas.
Gazé, qu'est-ce que c'est?
Elles étaient très jolies. Mais ça gazait pas, ça marchait pas, c'était triste. Alors tu peux venir à Rome? Moi j'en ai marre de la France.
Mais je ne peux pas, Michel. Je dois m'inscrire à la Sorbonne. Autrement, mes parents m'envoieraient plus d'argent.
Je t'en donnerai.
Mais on a passé que 3 nuits ensemble.
Non, 5. Pourquoi tu mets jamais de soutien-gorge?
Écoute, parle pas comme ça.
Bon, je m'excuse. Il est quelle heure? On se revoit tout à l'heure?
Non, pas tout à l'heure. Ce soir. Oui?
Yes. Où ça?
Oh, ici.
À bout de souffle, oui, j'ai beaucoup aimé le film À bout de souffle. Mais je dois dire que sur le plan de la lumière, il n'y a pas un effort particulier. C'est probablement même ce qu'avait voulu Godard. Et je crois qu'il l'a déclaré, d'ailleurs. Et son chef opérateur, que je connais bien, et qui est Raoul Coutard, lui-même, je crois, n'essayait pas d'avoir aucune prétention en ce qui concernait la disposition même des éclairages. Et les éclairages d'extérieur sont nuls, nuls dans le sens qu'il n'y a pas un apport spécial. Et dans les intérieurs, ils sont simplement conditionnés par la forme des intérieurs et par les lieux, sans aucune recherche quelconque. Je crois que c'est ce qui caractérise la lumière de la Nouvelle Vague.
Et alors, ce Paris, justement, dans cette lumière non recomposée, comment apparaît-il ? Est-ce que c'est un Paris qui, du coup, perd de son importance, qui, au contraire, en prend une autre ? Est-ce qu'il est plus toile de fond ? Est-ce qu'il a autant d'importance ?
Moi, je crois que c'est le Paris que tout le monde peut facilement reconnaître et se reconnaître, parce que c'est le Paris tel qu'il s'offre au regard d'un citadin et d'un promeneur. Mais ce que je recherche, moi, ce n'est pas ça. La grande différence, c'est que précisément, je recherche toujours quelque chose qui aille au-delà de notre regard quotidien. Je me dis, c'est le quotidien, nous l'avons à notre portée, de notre vue. Mais est-ce que le quotidien est de l'art ? L'art cinématographique, comme tout autre art, ne peut être, à mon avis, que le regard personnel que quelqu'un porte sur les choses qui l'entourent, c'est-à-dire un certain découpage de la vie, une certaine mise en place de la vie, selon une conception intime, une certaine lumière, qui n'est pas forcément la lumière qui s'offre à notre regard, mais qui est une autre lumière. C'est celle qui nous habite. Alors, il est évident que c'est en contradiction avec l'image du quotidien. Donc, avec l'image de la Nouvelle Vague.
À partir des années 65-70, exactement comme ce véhicule qui arrive vers nous et qui va envahir le champ de la prise du son, il va devenir impossible de tourner dans les rues de Paris. Pour la bonne raison, c'est que les chanteurs de rue, c'est terminé. La voiture a colonisé complètement Paris. L'a servi. Les gosses qu'on voit courir dans la première séquence des Sous les toits de Paris de René Clair ne peuvent plus faire ça, même en studio, parce que ça ne correspond plus à une réalité. Au fond, les cinéastes, quand ils veulent tourner la ville, quand ils ont le sens de la ville, de l'habitat parisien, ils partent en banlieue où ils se réfugient dans ces sous-sols, là où la voiture, quand même, est tenue à distance.
Robert Bresson, à propos des Quatre nuits d'un rêveur.
Oui, j'ai essayé de mettre ce que le plus possible de ce que je connais, le plus possible qui est de mon expérience. Et j'habite sur l'eau. J'ai mis donc l'eau, les bords de la Seine la nuit en été, le Mont-Jardin, j'habite l'île Saint-Louis, Mont-Jardin de Notre-Dame, ce qui se passe dans ce jardin que j'ai plus ou moins vu en passant, les coups d'œil des filles aux garçons qui passent, même quand elles embrassent un autre. Tout ça, c'est de mon expérience. Et j'essaie non pas de mettre mon expérience de peintre, parce que je crois qu'il faut fuir la peinture. Et je suis d'autant plus peintre, je la fuis d'autant que je suis peintre, on ne peut pas avoir été peintre et ne plus l'être. Je la fuis et je horreur de la carte postale, de la belle photo pour la belle photo. Ce qu'il faut, ce sont des photos et des images nécessaires et pas des belles images.
C'est vrai qu'on a tourné certainement partout, dans tout Paris, mais enfin, chaque cinéaste a ses préférences. Godard, lui, c'est les Champs-Élysées, Saint-Germain. Bon, c'est peut-être par hasard, parce que les cahiers du cinéma étaient, au moment où on voit bien dans À bout de souffle, lorsque la fille demande s'il n'y a rien contre la jeunesse, il dit « moi j'aime les vieux », eh bien ça se passe sur les Champs-Élysées, juste en bas du siège des cahiers du cinéma, et on voit d'ailleurs la fille qui présente les cahiers du cinéma. Truffaut, lui, il préfère les lieux qu'il a bien connus, la Clichy, c'est là où il a vécu, et pas mal de ses films se passent effectivement dans ce coin-là. Bon, Romer, c'est plutôt les quais de la Seine, dans le signe du Lion, les déambulations des Jesséan et du 5e et du 6e arrondissement.
Mais le Pont des Arts apparaît souvent, d'ailleurs.
Bah, le Pont des Arts, c'est... oui, c'est bizarre, c'est un signe. On se demande si les cinéastes n'ont pas toujours en vue l'Académie française, là, qui doit les fasciner et qui ne comprennent pas très bien à quoi ça sert. Et en même temps, peut-être qu'il y a un désir inconscient qui se manifeste.
Ah, évidemment, trop cuit. C'est bien que je l'ai encore cuit.
Mais qu'est-ce que tu as ce matin? T'arrêtes pas de grogner. Tu as mal dormi?
Non, très bien, et toi?
Oh, moi? Les camions des Allemands réveillés à 4h du matin, j'ai pas pu m'endormir.
C'est marrant, moi j'entends rien.
Évidemment, t'entends rien, t'es insensible à tout. Tu vivrais dans un clapier à lapin, tu t'en rendrais même pas compte. Oh, on aura l'air malin ici. Quand l'immeuble sera fini. Elle était bien ton affaire d'appartement. Vue imprenable sur le Sacré-Cœur et la Tour Eiffel. Ils sont en train d'apprendre, t'as vu. Quand je pense à tout ce qu'on aurait pu faire avec cet argent, on a acheté une voiture, on s'en partit en vacances. Arrête avec tes mouillettes, t'as plus 5 ans.
Maintenant, les réalisateurs, qui sont souvent les auteurs, s'arrangent pour décrire un endroit où ils seront sûrs de tourner. Voilà. Alors, ça condamne beaucoup de choses.
Max Douy. Hein,
ils écrivent là où ils savent qu'ils auront l'autorisation de tourner. Bon, ben, ils se débrouillent. C'est-à-dire qu'on n'adapte pas un auteur qui a écrit des choses importantes en se disant, ben, il faudra qu'on le fasse. On dit, non, on ne peut pas faire ça, on va faire autrement. Et on fait autrement. Et cet autrement, si je vous passais 40 ou 50 films que je connais bien, vous verriez toujours les mêmes endroits. C'est embêtant. De même, des intérieurs naturels, il y a souvent les mêmes endroits qui reviennent. La télévision tourne beaucoup, par exemple, chez Rothschild à Ferrières. Alors ça, on le retrouve je ne sais pas combien de fois. Et puis on trouve aussi, il y a deux, trois petits hôtels particuliers, justement du quartier de Monceau, où on tourne beaucoup. Les gens sont ravis parce que ça leur permet de refaire la toiture, de refaire un peu de peinture, faire un peu de nettoyage, voilà. Mais c'est toujours pareil. On tourne beaucoup au château de Guermantes. C'est pas Paris. Mais on dit que c'est Paris, c'est l'intérieur d'un hôtel particulier du Marais, n'est-ce pas? Alors on dit, c'est très beau, oui, oui, mais on l'a vu 50 fois. Je sais pas combien de fois on a tourné à Guermantes, et puis il y a d'autres endroits, à Breteuil, etc. Enfin, c'est pas croyable.
C'est le lieu qui décide, la facilité du lieu.
Oui, la facilité et aussi l'économie. Parce qu'il y en a qui sont plus chers, alors on n'y va pas souvent, on les voit pas souvent ceux-là. Mais en général, on va là où on ne dépasse pas le kilométrage, parce qu'il y a une zone où il faut un défraiement, et une zone où il n'y a pas besoin de défraiement. Alors on s'arrange, ces messieurs, les directeurs de production et producteurs, s'arrangent pour ne pas dépasser les 40 kilomètres, je crois. Et puis c'est tout. Voilà. C'est le nouveau cinéma.
Gamard, trouver des lieux pour tourner dans Paris, ce n'est pas si évident. Et vous, vous avez monté donc une affaire de repérage de lieux pour le cinéma. Alors, comment est-ce que vous y prenez pour rechercher dans Paris des lieux de tournage?
Écoutez, très souvent, on utilise le carnet d'adresses parce qu'on a des demandes très variées. On a de bouche à oreille pas mal d'appartements. Les gens se le disent. Les gens disent aussi, tiens, pourquoi pas moi? Parce que financièrement, ça peut être assez intéressant. Donc, ils nous appellent. On va sur place tourner une vidéo. Nous l'avons donc enregistrée avec toutes les coordonnées à notre bureau. Et le réalisateur ou l'assistant vient nous voir, visionne ce qui peut l'intéresser. Et à ce moment-là, on prend rendez-vous avec le propriétaire pour aller faire un repérage sur place et faire une présentation ensuite. On fait aussi du porte-à-porte, parce que des fois, on a un appartement dans un quartier de Paris, on cherche dans ce même quartier, je sais pas moi, un marchand de journaux, un autre appartement qui soit tout près. Donc soit on cherche dans le même immeuble, soit on cherche dans les immeubles avoisinants pour voir si on pourrait trouver l'appartement qui convient. Alors le porte-à-porte, bon, soit on est reçu un peu comme des gens qui vont cambrioler, donc on nous claque la porte au nez. D'autres fois, on est très bien accueillis et les gens sont ravis de savoir qu'il y a un film qui va se tourner et que peut-être on va venir aussi chez eux. Les réactions sont très très différentes.
On nous dit qu'aujourd'hui dans Paris, les lieux se banalisent de plus en plus, qu'il y en a de moins en moins et qu'on retrouve dans les films tout le temps les mêmes cadres et les mêmes lieux.
Écoutez, là, il y a une solution de facilité un peu de la part des gens qui cherchent les lieux, puisqu'il y a effectivement des appartements qui d'ailleurs ne sont plus vraiment des décors naturels. Moi, j'appelle ça des studios. Ce sont la plupart du temps des grands appartements dont les propriétaires veulent un peu amortir le coût et donc ils les louent très souvent pour des films publicitaires. Sur des périodes un peu plus longues pour des longs métrages, et tous les gens de la profession les connaissent. Donc on se dit, tiens, on veut un appartement qui fasse 600 mètres carrés, bon, bah, y a celui-là, et puis on va y tourner. Ceci dit, la plupart du temps, on a aussi des demandes très précises, avec des questions d'ameublement. Bon, ces appartements-là, ils ne sont pas meublés ou presque pas meublés. Et quand on nous demande quand même un cadre... Par exemple, en ce moment, on fait cette recherche d'appartements un peu genre milliardaires américains. Bon, moi, j'ai comme source un peu les journaux de décoration. Je téléphone à des décorateurs pour savoir s'ils auraient décoré un appartement de ce type, parce que c'est pas du tout facile à trouver. On ne va le trouver que par relation ou en questionnant des gens qui sont architectes d'intérieur ou décorateurs qui auraient fait ce genre de choses.
Je sais pas ce que tu dis, Lina, ça n'a rien de...
Boule malléable adoptant exactement la forme du conduit auditif, anti-vibratoire, ne transmettant pas au tympan les vibrations qu'elles interceptent, le bruit. Rançon que nous devons payer à notre civilisation moderne est une des causes principales des maladies nerveuses. Les malades, les nerveux, pourront se reposer malgré les bruits. Les intellectuels pourront travailler dans le silence grâce aux boules quiesses.
Mais je les ai mis toujours dans le même placard, enfin.
Les ouvriers métallurgistes et tous ceux exposés dans les milieux bruyants, forges, chaudronneries, tissages, chemins de fer, bancs d'essai, etc., dont les forts bruits répétés chaque jour finissent par réduire considérablement le champ auditif. Protégeront leurs tympans avec les boules de pièces.
Si t'avais plus l'autorité, t'aurais pas besoin de crier.
Oui, tu vas voir si je vais pas crier tout à l'heure, parce que je commence à avoir plein le cul. Tu m'entends? J'ai entendu le mot.
Ça fait 10 fois que je lui demande d'apporter du sucre de canne et rien à faire. Chose, hein. Le café est bon, tu parles. Ça, c'est encore autant.
Bon. Hein?
Bon, il y a un problème de bruit qui, lui, est évident, puisque tous les appartements, il faut qu'ils soient silencieux. Il y a de superbes appartements sur les quais ou dans des quartiers comme le 17e. Je pense à un que je suis allée visiter récemment, qui est très beau, mais qui se trouve sur une place où il y a énormément de circulation, donc on ne peut pas tourner. Et ça pose de plus en plus un problème pour le cinéma dans Paris, parce qu'il y a énormément de démarches administratives à faire. Lorsqu'on tourne en province ou dans la banlieue parisienne, c'est beaucoup moins lourd. On n'a pas ce problème de stationnement, on n'a pas ce problème de bruit, etc.
On n'arrête plus la circulation dans Paris ?
Non, non, non. J'ai eu une demande un jour pour arrêter la circulation sur le pont Alexandre III. Alors j'ai téléphoné à la préfecture de police et on m'a carrément rayonné.
Est-ce que vous avez l'impression, à travers tous les repérages que vous faites, que dans le cinéma contemporain, bon, le cinéma français contemporain, enfin, ou disons le cinéma qui se tourne à Paris aujourd'hui, il y a un autre visage de Paris qui apparaît?
Oui, il y a un nouveau lieu qui commence à être exploité, qui est l'Institut du Monde Arabe, qui est un lieu superbe que je suis allée visiter vraiment à la fin des travaux, qui a été utilisé plusieurs fois pour des publicités, pour un film américain aussi. De même, la Vidéothèque des Halles, qui est superbe, où il y a une salle de conférence avec un toit en pyramide verrière. Bon, ça sont des lieux neufs. Et je dois dire que dès l'ouverture de ces lieux, moi je vais sur place et je fais un repérage et on prend contact tout de suite avec les responsables des lieux. Bon, je pense à la nouvelle école de l'opéra, je pense à la vidéothèque, je pense à une école très belle qui dépend de la chambre de commerce et qui se trouve à Noisiel, qui a une architecture étonnante. On tourne par exemple très souvent dans les halles. Bon, ça c'est le nouveau Paris. C'est des rues qui n'existaient pas. Bon, ça c'est très vrai. Il y a aussi le Paris du 18e, du 20e, qui est beaucoup utilisé. Je pense au film qui se prépare de Benex. Bon, il va y avoir des choses qui vont se tourner là-bas. L'architecture contemporaine, oui, on nous demande ça.
Alors, ce qui est étrange, c'est que après la nouvelle vague, il faut un peu plus fouiller pour retrouver Paris au cinéma.
Oui, il faut se réfugier dans ces sous-sols, dans ces lieux un peu secrets. Bon, la rue a été colonisée par la voiture et on ne peut plus faire évoluer ces acteurs et il ne peut plus se passer quelque chose qu'à l'intérieur d'une certaine intimité. Et l'intimité étant un espace clos et étouffant, la ville de liberté, ça n'a plus de sens.
Alors on se retrouve beaucoup dans le métro, par exemple.
Oui, le métro, c'est un lieu, d'ailleurs, clé. Enfin, je veux dire, c'est curieux de penser que la sécurité, c'est la sécurité dans le métro pour beaucoup de gens. Pourquoi ? Parce que c'était un lieu de communication, de passage, de circulation, où les gens sont en contact les uns des autres. Et c'est, ça en dit long un petit peu sur le fait que tout le monde sait que le... La chose la plus difficile à supporter, c'est le manque de communication, et surtout avec son voisin de palier. Là où on est, évidemment, dans la rame, en contact des autres, c'était un des rares lieux où on pouvait avoir encore un contact. Alors c'est un effet vraiment pervers de penser que là où il se passe jamais rien, au fond, à part quelques que larcins, on pense toujours que c'est l'endroit le plus où il y a le moins de sécurité.
Regardez celui-là. Pourquoi est-ce qu'il fait cette tête-là?
Tout dépend ce qu'on imagine. Suivant le commentaire que vous ferez, il fera pas la même tête. Si vous vous dites qu'il ramène dans son carton un ours en peluche pour sa petite fille malade, il aura l'air d'un brave type. Au contraire, vous trouverez qu'il a une sale gueule. Si vous pensez qu'il y a du plastique dans son carton pour faire sauter la République.
Ça me rappelle une chanson. Comment c'était? En étant vu qu'ils s'en allèrent, ils ne demandaient que du feu. Ils se contentaient de si peu. Ils avaient si peu de colère. J'entends leur voix, j'entends leur pas, j'entends leur voix qui disent des choses banales. Comme on en lit sur le journal, comme on en dit le soir chez soi. Ce qu'on fait de vous, hommes, femmes, aux pierres tendres tout usées et vos apparences brisées, vous regardez m'arrache l'âme.
C'est quasiment Pickpocket qui commence à faire le film, le premier film dans le métro. Et métro et gare. De ce point de vue, Pickpocket est un film un peu mythique, outre, pour d'autres raisons, beaucoup plus artistiques, mais mythique d'un point de vue sociologique, car c'était la première fois qu'on mettait en évidence la place importante de l'errance dans la ville qu'impliquent les gares et les métros. Qu'on y a impliqué une action qui était celle de Pickpocket et d'autres choses, mais c'était ça qui est intéressant. Et les métros va devenir de plus en plus présent. Donc, par exemple, une partie du sketch de Romer dans Paris vu par, ça part du métro, il y a une scène dans le métro, etc. Enfin, le métro devient de plus en plus présent. Bon, puis, ça aboutit évidemment à sa dégénérescence totale, avec sa bouée de Besson, qui est là, la bêtification totale du métro. Mais ce qui m'intéresse dans l'utilisation du métro dans le cinéma français, c'est justement pas la poursuite. La poursuite dans les métros, les Américains en ont fait de tellement belles que nous sommes vraiment ridicules en comparaison.
C'est quelque chose de magique, le sous-sol, pour moi, parce que déjà, les couleurs ne sont jamais les mêmes. Quand on regarde une fille, c'est... elle n'est pas du tout comme on la voit dans la rue, parce qu'il y a ces...
Mehdi Sharef.
Les gens ne sont pas les mêmes. Les gens sont complètement différents, parce que c'est une autre vie quand t'es dans sous-sol. Parce qu'on attend, tout le monde attend. Attend une station, attend de sortir. Donc les gens sont d'un seul coup, ils deviennent... C'est là qu'on vraiment... Vous savez, quand vous êtes dans le métro, moi, le jeu que je faisais avec un copain, quand on était dans le métro, c'est qu'on était assis, on attendait la station pour descendre, et on regardait les gens et on essayait d'imaginer quel journal ils pouvaient lire. Parce que c'est vraiment là où on voit les gens, vraiment, enfin, tels qu'ils sont, ils sont vrais. Quand quelqu'un attend, il est détendu. Comment dire, ils sont vrais d'un seul coup. Ils peuvent plus tricher, et c'est là... Je sais pas pourquoi, parce que peut-être c'est le fait, je sais pas. Et moi, à un moment, ça me faisait même peur d'aller dans le métro, quoi, à cause de voir les gens.
Il est dingue. Mais tu as le droit. Tu veux que j'enlève mes pompes? Hein, maintenant.
J'ai fait trois films et trois dans Paris. Pourquoi ? Parce que c'était les histoires que j'ai racontées, les personnages que j'ai suivis, ne pouvaient être habillés que par Paris. Pour moi, à ce moment-là le costume idéal pour les personnages. Je ne le voyais, je pouvais pas les voir ailleurs, c'était pas possible. Et donc les rues où ils traînent, les rues où ils passent, les rues où ils se rencontrent. Même les bistrots, c'était quelque chose d'évident. Ça pouvait pas se passer ailleurs. Puis moi, j'adore ces rues. J'adore ces rues, j'adore ces bistrots. Moi, mon rêve, c'est de faire un film qui sent la bière et les frites. Et c'est ce que j'ai voulu donner dans mes films, quand on rentre dans un bistrot à Paris. Que ce soit dans le Théorème, que ce soit dans Bismala. Surtout dans Bismala. Dans le dernier film Camomille, j'ai pris un bistrot à l'aube, parce que moi j'ai toujours été subjugué par Paris à l'aube. Le gars qui prend son journal alors que le marchand de journaux n'est pas encore arrivé, il prend son journal le matin, il rentre dans le bistrot, c'est le premier café du matin. Le gars, il lui sert son café avant qu'il lui demande. Ça, c'est ça, Paris. C'est des choses qu'il n'y a pas en province. Enfin, j'ai l'impression que je... C'est ça qui est... Enfin, je sais pas. Hein. J'ai beaucoup repéré dans Paris. Ouh là là, j'étais. Parce que bon, on se fait des plans. Enfin, moi, je faisais des plans pour quelqu'un de quartier, et il fallait faire le quartier en entier. C'est un pass, toutes les rues. Parce que quand on fait un quartier et puis on est un peu fatigué, on se dit oh non, il reste deux trois rues, je les fais pas. On se dit non, c'est ces trois rues-là qu'il me faut. Donc, on est obligé d'aller jusqu'au bout. Et puis pousser des portes. Moi, j'aime bien pousser les portes. Là, j'ai découvert des choses. Il reste quand même des belles choses derrière les portes, ces grandes portes en bois. Là, où... Ce qui est chiant, c'est qu'on ne peut plus pousser les portes comme dans le temps, parce que maintenant, il faut le code. On ne peut plus... ça aussi, c'était... Et ce où on peut entrer, c'est celle qu'on a déjà filmée. Celle où... Et... Ce que j'avais trouvé, c'était des fabriques clandestines. C'était des fabriques clandestines avec toute une vie à l'intérieur. C'est-à-dire que les gens qui travaillaient dedans vivaient complètement dedans aussi. Ils couchaient derrière, ils faisaient leur cuisine derrière la fabrique, quoi. Et ça, c'était dans des quartiers qui étaient compensés, inhabités.
Par exemple ?
Dans le 13e, le long des quais, il y a des... D'ailleurs, ils ont voulu les démolir pour les Jeux Olympiques, mais comme je crois que ça a foiré les Jeux Olympiques. Oh ben non, je peux pas vous dire ça, parce que les gens, ils sont tranquilles là-dedans. J'ai fait une gaffe, j'ai dit... On découvre des gens qui travaillent dans des endroits assez durs, assez glauques, quoi. Assez... Et puis des gens qui habitent dans des endroits assez bizarres. Des gens qui restent. Puis des gens qui vivent, qui ne savent plus, qui n'ont pas l'impression d'habiter à Paris. Hein. C'est des gens qui vivent ailleurs, complètement ailleurs. Hein. Et qui ne sortent pratiquement jamais. On rencontre des vieux aussi. Des vieux qui ne peuvent plus descendre, parce que s'ils attachent en ascenseur, alors c'est des gens qui n'ont pas vu la rue depuis des mois, des années, et qui ont peur. Il y a des choses qui n'ont pas été... Des décors extérieurs qui, des fois, quand on a vraiment fait un beau repérage, quand on a bien lu le scénario, quand on a vraiment l'impression que ça a été fait pour nous. Et souvent, des fois, on se fait la réflexion. On se dit, merde, ça a été fait pour nous, ça. Dans Camomille, c'est où habite la mère et le fiston, quoi. Les gens, il y a beaucoup de gens qui ont vu le film qui ne pensent pas que c'est dans Paris, alors que c'est en plein centre de Paris. C'est cette belle femme qui s'est complètement exclue un peu de la société, qui en même temps a tiré son fils avec elle. Et qui vit au fond de cette cour. Et ça, on a vraiment l'impression que ça a été construit pour le film.
Et c'est le lieu qui vous a inspiré le scénario ?
Bon, il inspire beaucoup de choses, ouais. Il inspire les déplacements, il inspire même beaucoup de réactions des personnages. On les dit, ça me permet de leur rajouter beaucoup de choses. Quand on voit où ils peuvent vivre, on les connaît mieux, quoi.
Vous tournez pratiquement tout en décor naturel.
Oh, souvent, ouais, très souvent. La plupart du temps, ouais. Mais je voudrais bien faire un film en studio, c'est sûr. Mais ça m'embête pas, ces difficultés de... en décor naturel. Quand on a des bons techniciens, il n'y a pas de problème. On a tourné sous le périphérique, là, toutes les scènes de roulotte, et on n'entend jamais le périphérique. Sauf quand on le veut. Et ça, c'est formidable. Non, ce qui est chiant, c'est pour le son. Mais en même temps, ça donne des trucs. On découvre des choses, en réécoutant, on découvre des trucs formidables. Et c'est ça qui est bien dans Paris, quand on tourne dans Paris, c'est que... C'est surtout au son qu'on découvre des choses. D'un seul coup, on tourne dans un endroit et on croit qu'on est peinard et on entend des gosses, on dit tiens, on ne savait pas qu'il y avait une cour de récré derrière le mur. Et ça, en écoutant, c'est les imprévus, c'est formidable, ça, il faut le garder.
Mardi du cinéma, Paris, mise en scène. Par Simone Dweck, avec Henri Alcan, Mehdi Charef, Jean Douchet, Max Douy, Catherine Gamard, Gilles Nadeau, et les voix de Marcel Carnet, René Clair, Albert Préjean, Robert Bresson, document INA. Remerciements, Patricia Fouque à la Cinémathèque française, Ève-Marie Levasseur. Livre Paris Cinéma par Jean Douchet et Gilles Nadeau, édition du Mai. Mixage Monique Pratt, Claude Jubier, Hervé Kelfer. Réalisation Jean-Claude Loiseau.
Coupez, coupez,
coupé.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 27 septembre 1988. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.